Donc, ce matin, je voulais faire quelque chose que je fais rarement, c'est poursuivre ma pensée sur la question de l'alliance. Je sais que Michel est plus familier que moi à faire des prédications qui se suivent. Moi, j'aime bien passer d'un sujet à un autre, mais il se trouve que ces derniers temps, je suis engagé dans plusieurs préparations au mariage. Et que j'en ai fait deux séances avec deux couples différents en une semaine. Et que ensuite il y a la préparation au baptême. C'est aussi quelque chose qui parle de l'alliance. Donc préparation au mariage, baptême et d'autres accompagnements de. J'avais plus besoin de ce bien. De l'alliance. Donc c'est quelque chose qui fait émerger des interrogations, des questionnements. Juste comme verset de référence pour commencer, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54, verset 10, le prophète dit: « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Alors c'est un verset que j'aime beaucoup, mais en même temps, j'ai envie de dire que l'alliance, c'est l'alliance à la fois entre Dieu et son peuple, que ce soit Israël ou que ce soit l'Église, et que c'est aussi l'alliance que font un homme et une femme qui font le choix de se lier sous le regard de Dieu. Et c'est très intéressant de faire des temps ou d'accompagner des couples dans le mariage. Je trouve que c'est assez. Il y a une diversité. Là, j'ai deux couples qui sont dans ce temps-là, trois même, qui s'interrogent sur la question de l'alliance. Et en fonction des personnalités, en fonction des trajectoires, en fonction des difficultés rencontrées dans la relation aux autres, c'est vrai que la notion d'alliance, finalement, peut être très variable, peut changer. Et qu'il y a ce qu'il y a avant, il y a l'alliance que l'on fait et il y a la réalité de ce qui est vécu ensuite. Donc, j'aime ce verset de Ésaïe 54, verset 10, qui dit: Quand les montagnes chancelleraient, s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas. Et j'ai envie de dire, il n'y a que les montagnes et les collines qui peuvent chanceler, mais que parfois nos alliances à nous, qu'elles soient par rapport à Dieu ou qu'elles soient par rapport aux engagements que nous prenons avec les uns et les autres autour de nous, ça peut être aussi avec le conjoint ou la conjointe que nous avons, eh bien, nous pouvons constater que c'est parfois compliqué de respecter l'alliance qu'on avait à cœur et dans l'esprit, et qu'il y a parfois des écarts. Je parlais avec ma femme sur la question de l'amitié, pas d'amour, de l'amitié. Et mon constat, je dirais, je suis plutôt sur la dernière ligne droite, c'est de me poser la question et je lui disais, je ne sais pas si je suis un bon ami. Je ne sais pas si j'ai les capacités, si j'ai le désir d'entretenir l'amitié. Et si j'ai été fidèle en amitié. Alors, je disais, bon, c'est un constat à la fin de sa vie. On se dit, bon, qu'est-ce qui fait de moi un bon ami ou un mauvais ami? Alors, je me disais, pourvu que dans mon amour, qui est le cran au-dessus, hein, vous vous rappelez du discours entre Jésus et Pierre, est-ce que tu as de l'amitié, est-ce que tu as de l'amour pour moi? Et puis Pierre qui répond, j'ai beaucoup d'amitié pour toi. Est-ce que tu as de l'amour pour moi? J'ai beaucoup d'amitié pour toi, dit-il à la fin de l'évangile de Jean. Et Jésus finit par lui dire, bon, est-ce que tu as de l'amitié pour moi? Et Pierre est blessé de ce que Jésus ait rabaissé le niveau de son exigence et que finalement il le met au niveau de ce qu'il est en capacité de dire, du fait de ces trois reniements, du fait de ces absences, etc. Alors, je ne sais pas si je suis un bon ami. Je m'interrogeais même si j'avais été un bon fils. Par rapport à. J'ai eu deux pères, un génétique et un qui m'a quasi adopté. Est-ce que j'étais un ami, un bon ami, ou est-ce que je suis un bon ami, je ne sais pas. Mais j'espère que j'apprends à aimer. En tout cas, j'ai le désir d'apprendre à aimer. Et ici, Dieu dit à son peuple, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et s'il y a quelque chose de certain, c'est que la relation à Dieu dans la Bible est utilisée pour parler de la relation aussi d'un homme et d'une femme, ou d'une femme avec un homme. Et que cette alliance-là, Dieu en parle afin de dire ce qu'il souhaite avoir comme relation avec moi. Et puis ce qu'il souhaite voir se développer dans ma relation avec celui ou celle que j'ai choisi. Alors vous êtes de toute manière, que vous soyez célibataire, veuve, vous êtes forcément concerné au moins par la relation avec Dieu. Et puis si vous êtes concerné par la relation avec ceux qui sont à côté de vous, vous êtes aussi concerné par votre relation à Dieu. Et la question de l'alliance, se questionne toujours. Dieu fait de l'alliance le cadre de référence du mariage, et le mariage sert de cadre au principe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Ça nous invite à nous responsabiliser et à dynamiser en quelque sorte notre démarche, à la fois vis-à-vis de Dieu, mais également dans notre relation à l'autre, dans notre foyer. Dieu veut faire alliance avec l'homme de toute éternité. Ça a commencé au Jardin d'Éden. Il avait déjà le désir de poser une alliance avec l'être humain qui était créé. Et cette alliance d'un homme et d'une femme est souvent utilisée dans la Bible pour illustrer ce lien que Dieu veut faire avec nous. Dans Matthieu, au chapitre 19, versets 1 à 15, c'est ce moment où les pharisiens cherchent à coincer Jésus en lui posant des questions qui peuvent être contradictoires ou posant question. Et il l'interpelle non pas pour apprendre de lui, mais pour signaler une apparente discordance entre le texte de la Genèse qui dit que, et c'est la loi de Moïse quand même, où l'homme et la femme sont appelés à faire une seule chair, et le même Moïse qui, dans Deutéronome 24, 1, autorise un mari à donner une lettre de divorce pour se séparer de son épouse. Alors Jésus, elle est où l'erreur? Est-ce que c'est le Deutéronome qui a raison? Est-ce que c'est le livre de la Genèse? C'est toi, entre guillemets, qui les a écrits. C'est lui qui les a écrits. Donc, il a un avis qui peut changer selon les circonstances. En fait, il n'y a pas de discordance entre les deux textes. Et Jésus donne la réponse. C'est à cause de la dureté de votre cœur. En fait, c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il y a à la fois, je dirais, un ordre créationnel, puisque c'est vraiment un ordre créationnel. Je posais la question à un jeune couple dont le fiancé est militaire, et on abordait la question de l'alliance. Et pour les militaires, la question de l'alliance, c'est du solide, hein. Quand on est militaire, on sait ce que c'est qu'un engagement. Quand on s'engage pour aller jusqu'au bout, y compris si je dirais, ça me conduit, mon engagement, à aller sur un théâtre d'opération où je risque ma vie, où ça remet en cause mon existence même. Et là, pour le coup, le jeune homme qui était en face de moi, par écran interposé, mais me disait, mais oui, ça me parle, moi, l'alliance, parce que je sais ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que cette alliance-là que j'ai dans mon métier, vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de mon pays, c'est aussi la nature de l'alliance que je dois avoir vis-à-vis de celle. Et ils étaient assis côte à côte sur leur canapé, chez eux, du côté de Rennes. Et ils disaient, ben voilà, c'est aussi la nature de mon alliance avec elle. Alors, est-ce que c'est aussi pour nous aussi ferme et déterminée cette alliance que nous faisons avec Dieu? Jésus répondra, à cause de la dureté de votre cœur, effectivement, cette alliance peut être remise en cause. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que vous soyez capable, puisque vous avez mangé du fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal dans le jardin d'Éden, que vous vous engagiez maintenant à être responsable de choisir le bien, le bon, ce qui appartient à la pensée de Dieu. Mais à cause de la dureté de votre cœur, il faut bien protéger aussi les femmes, parce que c'était aussi un texte pour protéger les femmes, qu'elles ne soient pas rejetées et mises dans une situation d'exclusion, mais qu'elles aient une possibilité de pouvoir reconstruire leur vie. Vivre avec Dieu, c'est faire alliance. Se marier, ça l'est aussi. Petite parenthèse humoristique, je cherchais un texte et je suis allé sur Internet et je suis arrivé sur un site que j'aime beaucoup. C'est un site de l'église EPUDF, je crois, c'est Créteil ou Montreuil, je ne sais plus. Et ils avaient plusieurs thèmes. Et il y avait l'alliance comme... Alors, il y avait plusieurs thèmes, il y en avait 4-5 que l'église proposait, etc. Et parmi, il y avait l'alliance... de l'homme avec sa femme, reflet de l'alliance de Dieu. Et le thème suivant, c'était Daniel dans la fosse aux lions. J'y tiens, c'est particulier comme passage de l'un à l'autre. Le mariage, c'est une alliance, et puis après, c'est Daniel dans la fosse aux lions. J'ai dit, bon, c'est le hasard de la construction du site. Vivre avec Dieu, c'est faire alliance, se marier aussi. Et vous, dit Dieu dans Malachi, et vous dites, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est abandonné ? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas présent dans la vie ? C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, dans notre version, ça ne l'est pas dans la Bible hébraïque, mais dans notre version. Moi, j'aime bien ça parce que après Malachi, il y a 400 ans de silence. C'est la dernière prophétie temporelle dans l'histoire d'Israël. Malachi, dernière prophétie, et après, il n'y a plus de prophètes. Et Malachi dit, et vous ? Dites pourquoi, dit Dieu, mais parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et Dieu parle de cette manière-là, de l'infidélité du peuple de Dieu. Pas simplement d'une histoire de couple et du fait que la construction de la famille dans la pensée d'Israël était devenue quelque chose de très léger. C'était parce que la femme de sa jeunesse reflétait la relation que le peuple d'Israël avait, de quelle manière il traitait cette relation-là avec son Dieu. Tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Lorsqu'on a lu Ésaïe 54:10, il est dit « Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Dans l'hébreu, c'est « qui te porte dans sa matrice. » C'est cela le terme hébreu. « Qui te matricide. » Il te porte dans sa matrice, il est là et il prend soin de toi. C'est pour ça que mon amour ne s'éloignera pas de toi, dit Dieu à Israël. Parce que je ne peux pas, je te porte en moi comme une mère porte son enfant. Est-ce qu'une maman qui a un enfant en gestation qui est là, qui le porte, peut dire « Oh, moi ça, je ne sais pas ce que c'est. Non, non, je ne m'en occupe pas, ça me concerne. » Non, elle le porte, elle sait qu'elle a la vie en elle. Et d'ailleurs, le mot « vie », on verra qu'il vient de loin. Donc, lorsque Malachi parle de la femme de sa jeunesse, c'est Dieu qui porte Israël, Dieu qui porte l'Église, Dieu qui me porte moi-même, comme une mère porte son enfant. Avoir compassion de toi, dans l'Ancien Testament en hébreu, moi j'ai trouvé toujours merveilleux de voir que l'hébreu dit « qui te matricie ». C'est la traduction d'André Chouraki qui traduit cela, parce que c'est l'organe féminin. Ah, ça dérange beaucoup les théologiens et qui veulent voir Dieu comme un homme, hein, comme dans la chapelle Sixtine, avec une grande barbe blanche. Non, Dieu me porte comme une mère porte son enfant. Dieu veut faire alliance avec toi. Où en es-tu de ton alliance avec lui ? L'alliance, c'est un engagement sans contrainte. Il n'y a d'alliance que dans la liberté. En ce moment, politiquement parlant, l'exemple du monde nous dit que Il y a parfois des alliances qui sont posées, envisagées, construites, le couteau sous la gorge. Un pays qui est fortement doté et qui dit à un autre pays qui est en guerre avec un deuxième, lui dit « Tu fais alliance avec moi, je récupère tes terres rares dont j'ai besoin pour fabriquer mon matériel informatique parce que la Chine ne veut plus m'en fournir. Et si tu fais alliance avec moi, je te fournirai des armes pour te défendre contre ton adversaire. Si !» Ça, si ce n'est pas une alliance qui se fait le couteau sous la gorge. Il y a parfois des chrétiens qui conçoivent la relation avec Dieu de la même manière. Je fais alliance avec lui parce que j'ai trop la trouille de ce qui pourrait m'arriver. Des alliances qui se font sur la base de la peur. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Martin Luther était au début dans cette construction-là. Lorsqu'il a été se réfugier sous un arbre et qu'il ne savait pas s'il était sauvé et que la foudre est tombée sur l'arbre, il a fait une alliance avec Dieu parce qu'il avait peur de ce que pouvait être son devenir en termes de salut. Jusqu'à ce qu'il découvre que le salut et l'alliance avec Dieu reposaient sur la grâce. Je n'ai rien à mériter. Je n'ai pas à vouloir être parfait. J'ai été piégé ma vie durant par cette notion-là. Le sens du devoir chez moi n'est pas une qualité, elle est un défaut. Ce sens du devoir m'a donné le sentiment que je devais agir de telle et telle manière. Et notamment, là, je viens de faire une journée de colloque avec une fédération à laquelle j'ai participé en termes de création il y a 20 ans, 21 ans maintenant. Et il se trouve que cette fédération se retrouvait ici à Lorient, et donc j'ai été invité. Et j'ai donné, et sans regret. Mais j'ai dit au revoir à mes collègues pour la dernière fois, je crois, pour une grande partie, qui sont dans toute la France. J'avais une collègue qui était là, que je n'avais pas vue depuis pratiquement 4-5 ans. Et on s'est salué et tout. Et tout à coup, elle me dit, « Mais alors, ça me fait tellement plaisir de te voir. C'est génial, tu es à la retraite. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?»« Bah, tu sais, moi, j'ai transféré un petit peu mon temps sur d'autres activités, notamment sur l'église. » Ah, elle me dit, « Ça, c'est quand même génial. » Je dis, « Ah bon ?» Elle me dit, « Oui, moi, je suis présidente de mon conseil presbytéral. » Je dis, « Ah bon ?» On a fonctionné 20 ans sans le savoir, sans se le dire. Et puis, j'ai pris conscience que le sens du devoir dans une alliance, ça peut être négatif. Je pense que j'aurais dû quitter mon travail plus tôt et que le sens du devoir me disait, « Non, non, il faut que tu t'occupes de ceci, de cela, etc. » Et je me suis rendu compte que je me suis piégé tout seul. Quels sont les pièges qui se construisent à partir de mes croyances, de mes pensées sur moi-même, sur ce que je dois être, sur ce que je dois faire? L'alliance de Dieu n'est pas une alliance où il nous dit « Moi, j'attends ça de toi, tu es obligé d'eux, je vais te contraindre. » Et parfois, on rentre dans une alliance, y compris avec Dieu, qui est une alliance qu'on construit de manière forcée. Si je ne fais pas cela, si je ne suis pas cela, alors je ne serai pas béni par Dieu. L'alliance, c'est un engagement sans contrainte. Il n'y a d'alliance que dans la liberté, celle de choisir. Notre engagement vis-à-vis de Dieu, comme vis-à-vis d'un conjoint, elle se doit d'être librement consentie. C'est vraiment une des règles du mariage dans notre société, ici en France. Dans d'autres pays, ça peut l'être moins bien. Mais en tout cas, chez nous, il faut que les deux soient d'accord. Si on va dans certains pays islamiques, on s'aperçoit que la contrainte, là, elle est très forte sur un des deux côtés, des deux parties. L'alliance qui est marquée comme librement consentie. Et notre relation avec Dieu, et notre alliance avec Dieu est aussi de cette nature-là. Il ne nous contraindra pas. Ésaïe disait, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. 55:3. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Il ne se dit pas, Dieu, en s'adressant à moi, « Allez, viens au pied, et maintenant tu obéis. » Ça nous fait sourire, hein. Mais est-ce que parfois on ne construit pas, on n'a pas le sentiment que ma relation à Dieu, c'est un Dieu péremptoire qui m'oblige à, qui me contraindrait à. Non, prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille. Est-ce que je prête l'oreille? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je viens à lui? Si j'écoute, mon âme vivra. Mais c'est moi qui décide si je l'écoute ou pas. Si je me saisis par la foi de ce qu'il me dit, je peux très bien, toute ma vie durant, entendre un vague bruit, des choses, mais ne pas l'écouter et que mon âme vive. Dieu, lorsqu'il nous rencontre, fait alliance avec nous. Il nous propose une alliance en vue de bâtir et de devenir. Lorsque Abraham est interpellé par Dieu et que Dieu fait alliance avec lui, on en a parlé il y a une quinzaine de jours, c'est pour qu'il puisse voir une descendance, entrer dans le pays de la promesse, servir de témoin au milieu des nations. Il l'appelle pour construire quelque chose de nouveau et pour devenir quelqu'un d'autre. Je reviens. Il veut bâtir avec lui, il ne veut pas qu'il devienne quelqu'un d'autre, il veut qu'il devienne tout court. Et en fait, l'alliance que Dieu veut faire avec moi et avec toi, c'est que tu deviennes. Tu deviennes celui et celle que Dieu a dans sa pensée de toute éternité lorsqu'il a dit « Je penserai-je ». Je pense à un homme qui s'appellera Jean-Marc, voilà ce. Et je peux vous assurer que quand je suis rentré dans l'église à l'âge de 15 ans, je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai entendu ce que Dieu pouvait vouloir pour moi. J'étais tellement déstructuré, tellement abîmé par la vie, par ce que j'avais vécu, qu'il n'y avait aucune espérance pour moi. Et que d'entendre que Dieu pouvait avoir des plans pour mon existence, c'est quelque chose qui m'a d'abord fait peur. La pensée de Dieu, pour nous, peut parfois nous faire peur. Je ne sais pas comment a réagi Abraham, mais je sais qu'à un moment donné, sa femme, Sarah, elle a rigolé doucement lorsqu'elle a entendu les promesses de Dieu. Ce n'est pas possible. Et peut-être que tu te poses cette question-là en regardant ton état, ta pensée, là où tu en es dans ta vie, soit parce que tu es trop jeune, soit parce que tu ne l'es plus assez, et que tu te dis... Quelles seraient les promesses de Dieu pour moi? Et pourtant, je sais que Dieu a encore des promesses pour moi à 68 balais et pour toi. Où en es-tu de l'alliance que Dieu veut faire avec toi pour que tu deviennes, pour qu'il puisse bâtir avec toi des choses nouvelles dans tes relations aux autres, que ce soit avec ta voisine, avec tes enfants, avec tes petits-enfants? Je vous ai raconté l'histoire de mon voisin qui débarque à n'importe quel moment avec son chien et puis qui vient vers moi et puis qui me pose. Et ça s'est encore produit cette semaine où il est venu vers moi en me disant « Bon, Jean-Marc, je me posais quand même des questions. Tu penses vraiment qu'on est éternel? Mais si on est éternel, comment ça peut se penser, se concevoir l'éternité ? Comme dirait Woody Allen, l'éternité c'est bien, mais c'est long, surtout à la fin. Et lui, il était taraudé par cette notion de l'éternité. Alors j'ai parlé de cette pensée que nous sommes taraudés par cette question de l'éternité parce que nous sommes des êtres éternels. La mort, souvent, on la voit, et on va voir qu'il y a un intérêt dans l'alliance de cette question de la mort. La mort nous interpelle parce que nous avons été créés comme des êtres éternels et qu'on fait une fixation sur la mort physique. Mais la mort physique, c'est le fruit du péché. Il n'empêche que pour ceux qui sont à Dieu comme ceux qui ne le seront pas, l'éternité les concernera tous les deux. Et j'ai abordé, quand vous parlez à votre voisin comme ça dans la rue en disant « mais t'es concerné comme moi », l'éternité c'est simplement... autre chose que l'arrêt ou la pensée que nous serions des êtres qui, au-delà de la mort physique, sont toujours concernés par l'existence, par l'être. La seule question, c'est où vivras-tu ton éternité? Quel est le rapport de toi et de celui qui a fait de toi un être éternel dans sa pensée? Et comment saisiras-tu ce que Dieu a fait en Jésus-Christ? Dieu veut vivre une alliance avec nous, une alliance sans contrainte. Alors, je dirais que pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait une relation et une vie commune. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On a rarement vu à un mariage la célébration et au sortir de l'église, le riz qui est jeté et puis tout à coup, les mariés qui se serrent la main et qui se disent « Bon, bah écoute, c'était chouette, bah à bientôt. » Non, non, en général, ils repartent ensemble. À ce moment-là, ils sont motivés. Au-delà de cela, parfois la motivation retombe. Mais l'alliance suppose une vie commune. Quitter pour s'attacher et devenir. J'aime beaucoup ce verset de Genèse 2:24 qui cristallise une bonne partie du projet de Dieu à la fois dans notre relation avec lui et dans notre relation avec l'autre, que ce soit notre conjoint, nos enfants, etc. C'est comment on accepte dans l'alliance de concevoir qu'il y a un projet de vie commun. Et pour qu'il y ait un projet de vie commun, il s'agit de quitter ce qui était notre vie antérieure avant l'alliance. Dans la foi chrétienne, c'est la même chose. Si je suis et je deviens chrétien parce que je veux faire alliance avec celui qui est mon Père céleste, parce que j'ai compris qu'il m'a racheté, qu'il m'a sauvé en Jésus-Christ, eh bien ce salut-là demande que je quitte ce qu'était ma vie antérieure. Non ? Imaginons que Luther, ayant pris conscience du salut, soit resté dans son monastère en Allemagne en se disant « Bon, bah, je vais continuer ma route, c'était chouette ce que j'ai vécu. C'est chouette d'avoir découvert l'alliance que Dieu me propose et que j'ai acceptée. Bon, je vais peut-être lâcher un peu les cilices dont je me fouettais pour être sûr de mon salut. Je vais peut-être abandonner. Mais bon, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Non, l'alliance qu'il a fait avec Dieu et Dieu avec lui l'a incité, l'a poussé à quitter ce qu'était sa vie antérieure. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ça veut dire que dans l'alliance que Dieu a faite avec moi, il a vécu cet arrachement. Il a laissé et il a quitté son ciel de gloire pour venir vers moi. Et qu'est-ce qu'il est dit au début de ce verset ? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors si lui a quitté son ciel de gloire pour venir vers moi et faire alliance avec moi, est-ce que tu ne crois pas qu'il serait bon que tu quittes aussi, non pas ton ciel de gloire, mais tes ténèbres, ou ton obscurité, ou ta désobéissance, et que tu fasses là aussi abandon de ces choses antérieures et anciennes, pour faire alliance avec lui. Au regard de ce qu'il a laissé et du fait que je doive avoir les pensées qui étaient en lui, est-ce que je peux faire ce même chemin vers lui et d'abandonner? Alors, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Regardez dans le dictionnaire, c'est un mot, c'est pas terrible, hein. C'est lourd, l'abandon. C'est lourd de laisser en arrière mes pensées, mes manières d'être, ma croyance concernant ce que je suis et que je veux continuer à être, d'abandonner cela pour dire « Je fais alliance avec toi, je suis prêt à remettre en cause toutes ces choses. » Ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation pour Christ est passée par l'abaissement, par le renoncement. Est-ce que je crois pouvoir être élevé dans les lieux célestes sans renoncer, sans abandonner ce qui n'est pas de Christ, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas de sa volonté, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. L'alliance, j'ai trouvé ce travail-là avec un des deux couples intéressant. Elle est caractérisée par quelque chose qui s'appelle le don de soi. Se donner. Au cœur de l'alliance se trouve l'amour. Mais l'amour de l'autre comme l'amour de soi. C'est-à-dire que le don de soi, c'est pas « je me sacrifie ». Moi, parmi les enfants, j'ai trois enfants. Il y en a une. Ah, j'ai déjà éliminé un. Bon, il y en a une. Elle avait l'art de se sacrifier pour son frère et sa sœur. Quand il y avait deux parts de tarte qui restaient, ou elle disait « Non, mais moi, non, c'est bon. Donc prenez. » Elle se sacrifiait toujours. Ça m'énervait. Je dis parfois... Il ne faut pas se sacrifier, il faut penser aussi à soi, avoir le courage d'affirmer son désir, ses envies. Alors, aimer l'autre, oui, mais sans pour autant se sacrifier. Je vois des regards dubitatifs, plus chez les femmes que chez les messieurs. Le sacrifice pour une maman, c'est quelque chose de presque charnel. Me sacrifie pour mes enfants. Hein. Non. Non, mais c'est important de se dire, faire alliance, c'est pas se sacrifier. Peut-on imaginer que nous aimions sans nous donner à l'autre, à Dieu? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ne se donne pas? Ce don prend la forme de la sollicitude, du respect, du besoin de s'associer à l'autre, aussi du besoin de dépendre aussi réciproquement l'un de l'autre. De la prédisposition aussi à secourir, se donner, c'est cela, vis-à-vis de l'autre. Alors là, on va me dire, oui, ça je comprends dans le mariage. Le don de soi dans l'intimité, se donner dans l'intimité. Et je ne parle pas des femmes qui doivent se donner, mais de l'homme qui doit se donner d'une manière intime, relationnelle, pas fusionnelle. Fusionnelle, c'est au début. Mais l'amour, c'est plus que la fusion. C'est comment on apprend à aimer et à se donner. Ça marche dans le coup, me dit. Est-ce que on peut aussi considérer que l'amour, l'alliance que je fais avec Dieu, relève aussi d'une nécessité de me donner dans une relation d'intimité? Oui, Seigneur, à l'heure du petit-déj, entre 7h15 et 7h30, on aura un bon moment d'intimité. Après, il y a la vie, il y a les enfants amenés à l'école, il y a le travail, il y a les activités. Donc l'intimité, est-ce que l'intimité, c'est pas à chaque instant pouvoir être dans la relation à l'autre, que l'autre soit là ou pas là, mais en tout cas, de rechercher cette intimité avec Dieu. C'est Jacques Poujol, que j'aime beaucoup, disait que le thermomètre de l'amour, c'est le plaisir que nous avons d'être avec l'autre. Ça, c'est un bon thermomètre. Moi, quand on me demande qui est mon meilleur ami, ma meilleure amie, je dis, Francine, pourquoi? Ça me semble évident. Est-ce que le thermomètre de l'amour, c'est le plaisir que nous avons à être avec l'autre? Et ça renvoie aussi, est-ce que j'ai du plaisir à être avec Dieu? Est-ce que c'est un thermomètre qui affiche, je dirais, quelque chose d'élevé, ou bien régulier, stable, mais bon, assez bas? L'alliance, c'est aussi un engagement vers l'avenir. Il y a dans l'amour, l'amour dans l'alliance est une espérance qui veut s'inscrire dans la durée. On est d'accord? Oui. Oui. Il y en a qui doutent là ou bien c'est vrai avec l'autre, c'est aussi avec Dieu. Si je prends mon baptême, je l'inscris dans une alliance de durée. Amen. C'est surtout un amen que j'attendais du fond là-bas. Oui. Est-ce que vous savez d'où vient le mot amour? J'ai découvert ça il y a quelque temps et ça m'a fait un bien fou. Le mot amour vient en fait de deux racines. A est mort en latin. Amor. On retrouve dans l'italien. Le A, c'est un A privatif. Et le mort, c'est la mort. Donc l'amour, c'est l'absence de mort ou, j'ai envie de dire, être sans mort. Ça veut dire, être sans mort, c'est être... Amen ! Vous parlez latin couramment, je suis étonné. Oui, l'amour, c'est être sans mort. C'est être vivant. Ainsi, donc, aimer une personne, c'est vouloir qu'il ou elle ne meure pas, ou en tout cas que la relation que j'ai avec elle, d'amour, ça ne meure pas, cette relation. Je veux la garder vivante. C'est quelque part un vœu d'éternité. Alors, avec Dieu, c'est aussi cela. Je veux que l'alliance que je fais avec toi soit une alliance d'amour, donc de non-mort, donc une alliance vivante. Mais pour qu'elle soit vivante, il faut que je l'entretienne. J'ai accueilli ma fille avec son chien, Chester. Ah, c'est une brute. Gentille, mais une brute. Donc j'ai récolté des palettes et j'ai enfermé ma tortue à l'intérieur. Parce que je me dis, il grignote des cornes de buffle comme moi je mâche du chewing-gum. Je me dis, s'il tombe sur ma tortue, il va aller voir quel goût ça a. Donc, je veux qu'elle reste vivante. Vouloir que l'autre reste vivant et qu'il ne soit pas, je dirais, en dehors de mes préoccupations, c'est l'objet de mon alliance. J'ai protégé ma tortue. Je veux qu'elle reste vivante. Est-ce que je protège de la même manière la femme avec laquelle je vis, la relation? Est-ce que amour, pour moi, ça signifie bien « je te veux vivante ». Donc, je n'ai pas mis des palettes pour l'enfermer derrière, pour qu'elle ne soit pas attaquée, mais le souci que l'on a... Je dis ça parce que j'ai vu un sourire, quelqu'un qui imaginait Francine enfermée par une série de palettes en bois. Non. Je veux qu'elle reste vivante. Ah oui, c'est vrai. Je dis, si moi je dois faire du jogging avec un animal, prenons un chien. Après, on nous a proposé une tortue. Je dis, bon, ça sera le jogging de Francine. Mais bon, c'est... Mais j'aime beaucoup cette idée que l'amour, c'est de vouloir que l'autre demeure vivant. Et en fait, si vous regardez cela, vous allez vous rendre compte que le verset de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, le don, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas, mais qu'il vive pour l'éternité. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est la définition parfaite de l'amour. Je te veux vivant. Encore plus loin. Dieu ne me sauve pas simplement pour que j'échappe à la mort, mais afin que je vive, je dirais, durablement et dans la plénitude. Je veux que tu sois vivant et vivante dans tout ce que tu es. Regarde ton épouse, regarde ton mari. Et l'amour que tu lui portes doit lui permettre de devenir vivante dans toutes les dimensions de son être. Amour, absence de mort. Pour la vie. Et le plan de Dieu, c'est que je sois vivant dans la globalité de ce que je suis. Alléluia. Bien. Lorsqu'on voit cela, au chapitre 2, verset 23, il est dit que Adam devient un homme, une âme vivante. En fait, Adam, c'est André Chouraki le traduit plus justement, c'est le glébeux. Aucune maman n'a pensé à appeler son fils le glébeux. Non, je fais un sondage rapide. Le dernier-né, là-bas, il n'était pas sur la liste des prénoms. Le glébeux, c'est Adam. Le glébeux, la terre. Et c'est pour ça qu'il dit le glébeux. Et ce n'est pas le seul traducteur à le traduire de cette manière-là. Mais le glébeux devient un homme quand il se trouve face à Isha. Il devient Ish face à Isha. C'est-à-dire que c'est la femme... En face de lui, je te ferai une aide vis-à-vis de toi-même qui lui permet d'accéder à son identité d'homme. L'alliance avec la femme pour Adam lui permet de sortir de son statut ou identité de glébeux pour devenir un homme. Le vis-à-vis, l'alliance entre Adam et Ève, le fait devenir homme. Il trouve son identité face à la femme. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que Adam va parler à la première personne. C'est le premier je de la Bible, c'est quand il accepte face à sa femme de devenir un homme. Ça, c'est l'alliance. Je deviens je, étrange quand même, je deviens je quand en face de moi, l'autre me fait devenir en me renvoyant ce que je peux être. Est-ce que c'est cela aussi ton alliance par rapport à l'autre? Est-ce que c'est cela aussi ta compréhension de l'alliance vis-à-vis de Dieu? J'aurais juste terminé avec cette pensée que dans l'alliance, il y a une question de chercher celui que nous aimons et qui nous aime. C'est dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 3, versets 2 et 4, où la bien-aimée dit « Je chercherai celui que mon cœur aime » et qui dit ensuite au verset 4 « J'ai trouvé celui que mon cœur aime ». Est-ce que c'est cela, ma conviction dans l'alliance que je passe avec Dieu? Et la question, est-ce que c'est aussi cela que je pose comme principe dans ma relation de couple? Est-ce que j'ai trouvé celui que mon cœur aime? Dieu m'a cherché. Et là, je peux dire qu'il m'a trouvé. Pourtant, j'étais bien caché. Au milieu des tours HLM, des immeubles, dans un mode de fonctionnement. Moi, j'avais le sentiment que Dieu, je n'étais jamais rentré dans le quartier. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de chrétiens tout autour de moi, au troisième étage, dans l'immeuble en face, dans la rue à côté, plein de chrétiens. Dieu nous a trouvés. Et maintenant, la question, c'est est-ce que moi, je le cherche? Et de quelle manière je le cherche? Est-ce que je le cherche parce que c'est mon essentiel? Est-ce que je le cherche parce que je considère que c'est celui qui peut me faire devenir ce que je suis? C'est Georges Sand qui a une formule que j'aime beaucoup. Elle dit « L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve ». Ah, j'aime beaucoup. L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve. Là où est mon cœur, là sera mon trésor. Et où est mon cœur? La question est là. L'esprit cherche. Il y en a beaucoup qui cherchent. Mais est-ce qu'ils mettent aussi leur cœur au travail pour trouver ce qui est important? C'est un peu comme Joseph dans le livre de la Genèse au chapitre 37, verset 16, qui dit « Je cherche mes frères. Je cherche mes frères. » Joseph, c'est vraiment un modèle de Jésus-Christ. Jésus-Christ a cherché et il est venu et il a donné son cœur véritablement pour nous trouver. Et Joseph était dans cette perspective. Alors voilà un petit peu les pensées qui me venaient par rapport à ce verset, se séparer et puis s'attacher et devenir. Est-ce que nous sommes prêts à vivre cette alliance-là dans nos relations d'amour, une relation de non-mort? En 26 ans d'activité accompagnant des femmes dans des situations de dépendance, combien j'ai vu de femmes qui ont témoigné que la relation qu'ils avaient avec leur conjoint était une relation mortifère, toxique, difficile. Difficile à croire qu'une autre relation, surtout si Dieu est présenté comme un homme, puisse conduire à autre chose. Mais c'est pourtant ce que je peux faire comme choix, lui faire le choix de la confiance, de la volonté d'être avec lui. Il y a un poème que j'aime beaucoup, qui est un poème de Paul Éluard, c'est un de mes poètes préférés, qui dit ceci, et qui reflète un peu à la fois ce que je vis ou ce que je voudrais vivre dans ma relation avec celle qui m'accompagne, mais aussi dans ma relation d'alliance avec Dieu. on ne peut me connaître mieux que tu me connais. Tes yeux dans lesquels nous dormons tous les deux ont fait à mes lumières d'homme un sort meilleur qu'aux nuits du monde. Tes yeux dans lesquels je voyage ont donné aux gestes des routes un sens détaché de la terre. Dans tes yeux, ceux qui nous révèlent notre solitude infinie ne sont plus ce qu'ils croyaient être. On ne peut te connaître mieux que je te connais. Est-ce que nous avons ce désir de le connaître? Est-ce que nous pouvons transposer cette alliance-là vis-à-vis de l'autre? Je veux te connaître. Seigneur, merci pour ton désir d'alliance. Et parce que cette alliance repose sur ce que je suis prêt à vivre et à vouloir avec toi. Ouvre mes yeux, mon esprit pour que je te cherche. Ouvre mon cœur pour que je te trouve. Donne-moi de commencer ce chemin en dedans de moi pour vivre ce changement qui reposera sur l'alliance que tu as déjà tendue vers moi et que tu me proposes. Donne-moi de m'en saisir, de la vouloir, de la désirer, et qu'elle prenne et qu'elle devienne aussi l'alliance socle de ce que je veux vivre avec l'autre, avec les autres. Qu'aimer soit véritablement vouloir que l'autre soit vivant, devienne vivant dans tout ce qu'il y a de profond en lui ou en elle. Garde-moi, Seigneur, d'entretenir quelque chose qui soit mortifère, mais de vouloir ta vie, et ta vie en abondance. Amen.